Ô Dieu, nous allons ouvrir ta parole et nous sentons ce besoin que tu ouvres aussi nos cœurs pour que cette parole du Saint-Livre puisse pénétrer au plus profond de nous-mêmes et que comme le cœur de chacun de nous envoie le sang jusqu'aux extrémités de notre être, que cette parole dans nos cœurs spirituels puisse vraiment atteindre notre marche, atteindre nos gestes, influencer nos paroles, et que tous nos membres soient réellement sous ton contrôle, afin que quand on nous regarde marcher, on puisse penser à toi, comme c'était le cas de tes premiers disciples. Même leurs ennemis les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Que nous ne soyons pas simplement de ceux qui parlent de Jésus à tort et à travers, mais de ceux que même les ennemis de Dieu reconnaissent pour avoir été non seulement influencés par Jésus, mais captivés dans leurs pensées par Jésus. C'est notre requête au début de ce culte et nous te demandons d'ouvrir aussi nos yeux pour que nous puissions contempler les merveilles de ta loi. Amen. Eh bien, mes amis, ce matin, nous allons lire ce qui s'est passé dans cette journée de Pentecôte que nous rappelle aujourd'hui cette fête célébrée de différentes manières dans le monde, au chapitre 2 du livre des Actes. Nous allons faire la lecture de quelques versets qui nous montre, après la lecture d'hier soir, où nous avons vu ce qui s'était passé pour Israël au pied du Sinaï, le don de la loi, nous allons voir ce qui s'est passé pour l'Église, que Jésus fondait par sa mort et sa résurrection, le don du Saint-Esprit, qu'il avait promis, mais qui ne pouvait être répandu qu'après sa glorification. De sorte que Pentecôte, pour nous chrétiens, est le souvenir que vraiment Jésus est glorifié, que vraiment Jésus est monté à la droite de Dieu, et que vraiment Jésus nous représente devant Dieu, et que Dieu est satisfait. Et il est tellement satisfait que l'Esprit de son Fils, il nous l'a donné, pour que nous ne soyons pas des orphelins, mais que nous ayons en nous ce grand Consolateur, ce qui est une part encore plus merveilleuse que d'avoir Jésus avec nous, c'est de l'avoir en nous. Et c'était si vrai que Jésus disait, il vous est avantageux que moi je m'en aille. Les disciples auraient voulu le garder, c'était si merveilleux d'avoir Jésus avec soi. Mais il dit, mais il est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Tandis que si je m'en vais, eh bien, cet Esprit viendra habiter en vous, en chaque croyant. Et il leur disait, le jour de l'ascension, où il s'en allait auprès de son Père, après leur avoir bien dit ce qu'il allait faire, « Si je m'en vais auprès du Père, c'est pour vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai, afin de vous prendre auprès de moi. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Car je veux que là où je suis, vous soyez aussi avec moi. » Et alors, à la Pentecôte, Dieu a donné à connaître au monde que le sacrifice de son Fils l'avait tellement satisfait que maintenant il pouvait envoyer l'Esprit de son Fils dans l'enfer. Et comment est-ce que ça s'est passé, cette journée de Pentecôte? Il ne leur avait pas dit le jour, il avait dit dans peu de jours. Comme il ne nous a pas dit le jour de son retour, mais il nous l'a dit de l'attendre. Car à l'heure que nous ne pensons pas, le Fils de l'homme vient. C'est pourquoi il nous faut toujours être prêts. Et alors, ce que vous trouvez dans le livre des Actes, c'est que les disciples avaient pris Jésus au sérieux en descendant de la montagne des Oliviers. Ils se sont réunis. Tous les jours, ils étaient ensemble dans un même lieu, vivant dans l'attente, dans la foi, en l'accomplissement de cette promesse que Jésus leur avait dit, le Père vous enverra son Esprit. Vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous deviendrez mes témoins. Et ces gens qui ne s'entendaient pas avant, ces gens que vous voyez autour de Jésus, qui se disputaient pour savoir qui serait le plus grand, bien maintenant vous les voyez ensemble. Pourquoi ? C'est ce que nous vous disions l'autre soir. Quand Jésus est monté au ciel, Jésus était devenu leur trésor. Et là où était leur trésor, là se trouvait leur cœur. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Alors si votre cœur est déjà dans le ciel, qu'on vous prenne la place sur la terre, qu'est-ce que ça peut faire ? Lui nous a préparé une place. Alors on se contente de la place qu'on a ici-bas. Ce qui compte, c'est que j'ai une place assurée auprès de mon Seigneur. Parce que je sais très bien que même si j'ai une grande place sur la terre, quand je mourrai, la terre me mettra dans le trou. Hein? C'est tout ce que la terre nous donne. Or, le monde vous offre un tas de choses, puis pour finir, il en a tellement marre de vous, que quand vous n'êtes plus comme cadavre, on vous met dans la fosse. Eh bien, le Seigneur, lui, si vous lui avez donné votre cœur, comme nous l'avons chanté, oui, je veux croire, oui, je puis croire que Jésus-Christ est mort pour moi, vous savez que lui vous a préparé une place. Et que ce n'est que votre dépouille qui ira dans la terre. L'Esprit retourne à Dieu qu'il a donné. De sorte que ce n'est pas une catastrophe de mourir, c'est aller vers son Dieu. Mais même, nous n'attendons pas la mort, nous attendons Jésus. Il y a une génération qui ne passera pas par la mort. Alors, le grand événement de la Pentecôte, c'est donc historiquement le baptême du Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit qui allait revêtir ces 120 qui étaient là, réunis, tous des individus, pour en former un corps. Dès ce moment-là, l'Église serait fondée et formerait un seul corps, le corps du Christ qui est habité par son esprit. Lisons le chapitre. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Vous vous souvenez que le soir de Pâques, il en manquait un, même deux, il y avait Judas qui n'était plus, mais il manquait Thomas. Le jour de la Pentecôte, il n'en manquait pas un. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et nous voyons qu'il y avait des femmes aussi dans le chapitre précédent, car quand ils sont redescendus de la montagne, des oliviers, après avoir entendu les anges dire, « Pourquoi regardez-vous vers le ciel ? Ce Jésus qui est monté au ciel reviendra de la même manière. » Alors, ils attendent maintenant la promesse du Père et ils sont dans la prière, dans le silence. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et une autre version dit, ils étaient tous assis ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un son ou un bruit. Mais attention, on est dans le siècle du bruit. Mais littéralement, c'est il se fit un son. Un son qui venait du ciel, comme celui d'un vent violent, et il est dit, et un vent violent et impétueux remplit toute la maison où ils étaient assis. Ici, second a mis aussi assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chaque. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, non pas d'après ce qu'ils voulaient eux, mais selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles? Une autre version dit « des choses magnifiques de Dieu ». Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres « que veut dire ceci ?» Mais évidemment, il y a toujours les moqueurs. D'autres se moquaient. Et disait, ils sont pleins de doutes. Et c'est alors que Pierre intervient, je n'ai pas la fin du chapitre, vous le connaissez, et fait cette première prédication qui amène au Seigneur, qui amène à la foi 3000 âmes. Nous nous arrêterons ici. Le Seigneur bénit ta parole et sanctifie par elle. Ta parole est la vérité. Hier soir, nous avons vu comment la loi a été donnée, dans quel décor, et comment tout le peuple était saisi de grâce. Et nous avons pu souligner que cette loi avait été demandée par les Israélites. Disait à Moïse, bien, que Dieu nous montre ce que nous avons à faire et nous l'accomplirons. Ils ignoraient la faiblesse de leur propre chair. Et Dieu, quand on lui demande quelque chose, il est toujours disposé à nous écouter, à nous donner ce que nous lui avons demandé. Mais Israël ne savait pas ce qu'il demandait. Car quand ils ont entendu les paroles de Dieu, ils ont eu peur. Tout en reconnaissant que ces 10 commandements étaient saints, étaient justes, étaient bons. Et dans votre conscience, vous aussi, quand vous entendez la lecture de la loi, eh bien, vous dites, c'est bien. Et vous savez que tous les codes civils du monde, à peu près, sont basés sur la loi de Moïse. Ne pas tuer, vous êtes d'accord. Ne pas voler, vous êtes d'accord aussi. Ne pas commettre adultère, enfin, oui, si on est croyant et si on aime sa femme, eh bien on sait que c'est une infidélité. Nous sommes d'accord et quand nous voyons combien les ménages sont détruits aujourd'hui, eh bien nous disons, oui, c'est une loi qui vient et qui vient de Dieu. Mais qu'est-ce que la loi a démontré? Eh bien, elle a mis en évidence quoi? Le péché de l'homme. Parce que, tout cela c'est dans l'Épître aux Romains, il est dit, tant qu'il n'y avait pas de loi, le péché existait bien, puisque tout le monde mourait quand même. Jusqu'à Moïse, les gens, depuis Adam, sont morts. Il n'y avait pas de loi. Mais sans loi, au moins, ils vivaient. Mais le jour où les hommes ont prétendu pouvoir accomplir la pensée de Dieu et qu'ils ont reçu une loi, mis en présence de la loi, qu'est-ce qu'ils ont découvert? L'existence du péché en eux. Or, aujourd'hui, dans le monde chrétien, il n'y a plus de loi. Alors, il n'y a plus de péché. Tout est permis.
n'y a plus rien, il n'y a plus aucun frein. Le jour où vous supprimez la loi, tout est permis, tout est possible, mais vous arrivez à l'anarchie. Et c'est un état épouvantable qui ne peut pas durer. Alors, la loi, évidemment, était la manifestation de ce que Dieu était, des pensées de Dieu, mais ce n'était pas cela que Dieu voulait donner à l'homme pour le sauver. Il n'a jamais donné la loi aux hommes pour qu'ils puissent être sauvés par la loi. Il n'y aurait plus besoin du Seigneur Jésus. Si vous pouviez être sauvés en accomplissant les œuvres de la loi, vous supprimez Jésus-Christ. Vous supprimez la vie de Jésus-Christ, et non seulement sa vie, mais aussi sa mort. Alors, donc, la loi a été donnée pour manifester, d'une part, ce qu'était le péché, et la puissance du péché qui se trouve en nous. Je l'ai dit quelquefois, le péché n'est pas dans le cœur des vaches. Les vaches, elles n'ont pas renié le Seigneur, n'est-ce pas? Elles sont des fois averties de certains événements qui vont venir, et comme les chiens aussi, et qui sentent des choses que nous ne sentons pas parce qu'on a tout perdu. Les animaux n'ont pas renié leur Créateur, et Dieu s'occupe des animaux, mais l'homme, il a renié son Créateur. Alors, la loi nous fait découvrir le péché, mais pas seulement le péché, la faiblesse de la chair, parce que en face de la loi de Dieu, ma conscience me dit c'est juste, mais j'ai une puissance en moi qui me dit fait le contraire. Et qu'est-ce qui nous arrive? Eh bien, tout en voulant faire le bien, c'est le mal que l'on pratique. Alors là, vous êtes en plein dans le chapitre 7. Des Romains, qui est la démonstration de ce que je vous rappelle en ces quelques paroles. Manifestation du péché, d'une part, par la loi, manifestation de l'impuissance de la chair à faire le bien. De sorte que si vous êtes sous la loi, ou bien vous vous illusionnez au sujet de vos mérites, parce que vous croyez avoir fait des bonnes œuvres, n'avoir pas tué, n'avoir pas volé, n'avoir pas commis un adultère. Mais tout cela, c'est négatif. Hein. Vous n'avez pas fait cela, vous n'avez encore pas fait le bien. Car ne pas tuer, ce n'est pas encore aimer. Ne pas voler, ce n'est pas donner. Et puis, ne pas commettre adultère, ce n'est pas encore être un saint pour autant, quant à nos pensées. Hein. De sorte que, pas de secours par la loi. La loi m'amène à reconnaître la puissance du péché qui est en moi, l'incapacité que j'ai dans la chair pour faire le bien, et alors, je suis perdu. Je suis perdu. Et cela m'amène à crier, mais qu'est-ce qui peut me sauver? Qui me délivrera? Je reconnais que la loi est sainte, juste et bonne, mais la loi ne m'aide pas. Vous me dites de faire le bien, vous exhortez ma chair. Ma chair voudrait bien peut-être. J'essaye de dominer la chair, mais je n'arrive pas, c'est celle qui me domine. Alors, quand on arrive à cela, le temps convenable était venu pour que Dieu envoie son Fils. Et son Fils est venu. Il y a eu l'incarnation. Ce Dieu qui avait habité au milieu d'Israël et qui remplissait les Israélites dans la crainte, il est venu dans la personne d'un homme qui a pris un corps formé comme le nôtre, dans le sein d'une femme, quoique conçu du Saint-Esprit. Mais il y a eu ces 9 mois où le corps de Jésus a été formé. Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un. Parce que à cause du péché, Dieu avait donné des sacrifices, mais qui annonçait le plus excellent sacrifice, car sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors il y avait les sacrifices des taureaux, des boucs, des agneaux, comme les païens, eux aussi avaient compris que pour satisfaire la divinité, il n'y avait que le sacrifice, le sang versé. Et eux étaient arrivés à se dire, pour que le sang soit le meilleur, il faut que ce soit le sang d'un enfant. Alors on sacrifiait des enfants, voilà ce que vous avez dit. Mais les sacrifices des enfants, qui étaient vraiment interdits en Israël, eh bien, c'était encore l'expression de ce besoin d'une conscience d'offrir à la divinité quelque chose de très agréable. Alors on offrait un enfant en disant, il n'a pas encore péché. Mais ce n'était pas un enfant qui allait être le sacrifice. C'était l'agneau préconnu dès avant la fondation du monde. C'était Dieu lui-même qui allait se donner, mais pour pouvoir se donner, il fallait qu'il prenne un corps. Et c'est cela que nous rappelons ce matin. Car toute la vie du Seigneur ne pouvait pas nous sauver. Comme les tables de la loi ne pouvaient pas sauver Israël, ces tables où étaient écrites du doigt de Dieu les dix paroles, elles ne sauvaient personne, elles les condamnaient. Mais la vie même de Jésus, qui a expliqué la loi et qui a dit dans le sermon sur la montagne, si Moïse vous a dit tu ne tueras point, moi je vous dis que quand vous vous mettez même légèrement en colère contre quelqu'un, vous avez déjà commis le crime. Ne pas aimer son frère, c'est avoir du sang sur les mains. Il n'y a pas besoin de tuer. Si vous n'aimez pas, vous êtes un criminel. Celui qui n'aime pas, il est un meurtrier. Alors, comment faire pour aimer même notre prochain, même nos ennemis? Parce qu'on dit, alors, qui est notre prochain? Puis on fait des choix. Et le Seigneur nous a montré que nous n'avions pas de choix à faire. Alors, qui va nous délivrer? Jésus nous a montré. Il a été l'expression de la pensée de Dieu. Ce n'est plus une pierre sur laquelle on lit des commandements. C'est un homme qui avait la loi dans son cœur, qui vivait d'une façon parfaite cette loi, une loi d'amour. Quand il disait « Tu aimeras ton prochain », on voyait ce que c'était qu'aimer. Quand il disait « Tu aimeras ton Dieu », on voyait qu'il était tout pour Dieu, que Dieu occupait la première place, il ne parlait que de son Père. Il ne se glorifiait jamais de lui-même. Quelle chose merveilleuse. Eh bien, il a été l'homme parfait et nous ayant donné cet exemple, s'il était retourné dans la gloire sur la montagne de la Transfiguration, il n'y aurait eu qu'une vie, Jésus, comme exemple dans le monde. Et c'est pour cela qu'il disait, si le grain de blé tombant en terre ne meurt, il demeure seul. Il fallait qu'il meure. Et je le souligne souvent, c'est par la mort de Jésus que vous êtes sauvés, c'est pas par sa vie. Et c'est pas par ses paroles. Vous pouvez prendre des paroles de Jésus, puis donner des paroles de Jésus à tort et à travers, et vous empoisonnez les âmes avec ces paroles, ça les irrite, les citations versets bibliques à n'en plus finir. Ce n'est pas ces choses-là qui peuvent sauver une âme. Ce qui peut sauver une âme, c'est que cette âme soit convaincue de péché, qu'elle ne peut rien faire pour s'en sortir, pour se sauver, et qu'il n'y a que le sacrifice de Jésus. C'est par sa mort que nous avons cette révélation. La seule vie sainte qui pouvait entrer dans le ciel, c'était celle de Jésus. Et il n'y est pas entré. Il est descendu. La montagne, il s'est laissé arrêter, il s'est laissé condamner parce qu'il fallait. Que tous ces péchés qu'il avait pardonnés, ceux à qui il avait pardonné, comprennent à la croix le prix de ce pardon. Et tant que vous n'avez pas compris le prix du pardon dont vous bénéficiez, votre cœur reste tiède pour le Seigneur. Oui, vous êtes impressionné, peut-être, mais il faut savoir que ces péchés qui vous sont pardonnés ont coûté à Jésus sa vie. Il a donné sa vie sainte pour tous nos péchés afin de liquider complètement la question du péché devant Dieu. C'est par sa mort qu'il a expié nos péchés, mais pas seulement cela. Il nous a pris dans sa mort. Que de quoi vous avez pensé pour que je ne pêche plus, il faudrait que je sois mort. Eh bien, vous êtes mort. Et c'est ça le message. Vous êtes mort. Un Christ seulement qui serait mort pour nos péchés, voilà, je ne serai pas jugé, je n'irai pas en enfer, c'est rien de rien, cela. C'est que non seulement il est mort pour payer la dette de vos péchés, c'est un prix infini, mais il est mort pour que vous ne péchiez. le péché lui a coûté la vie. Alors, est-ce que je me livrerai encore au péché qui a coûté la vie de mon Seigneur? Alors, comment faire? Eh bien, tiens-toi pour mort au péché. À la table du Seigneur, il est dit que nous annonçons sa mort. Parce que tout est contenu dans cette mort. Il fallait qu'il meure. Et c'est par cette mort que nous sommes délivrés de la puissance de la loi et de ce joug de la loi. Je ne peux pas vous donner plus de détails là-dessus, mais vous avez tout cela dans l'Écriture. Nous sommes libérés de la loi. La loi me condamnait à cause de mes péchés. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a pris mes péchés. Vous les avez confessés? Il les a pris. Et à cause de nos péchés, justice devait être faite. La loi réclamait la mort. Jésus est mort. Justice est faite. La loi est satisfaite. C'est pas vous qui avez à satisfaire la loi maintenant. Vous avez à croire que la loi a été satisfaite par qui? Par Jésus. Alors ce n'est plus un joug pénible. Maintenant, la loi ne peut plus rien pour vous. Une fois qu'un condamné à mort a été exécuté, la loi n'a plus aucun pouvoir sur lui. C'est fini. Eh bien, prenez cette position dans le Christ. Dans sa mort, vous êtes mort. C'est pourquoi il faut une foi dynamique, une foi renouvelée tous les jours, une foi active qui vous rappelle ces choses lorsque vous êtes dans la tentation. Le péché est toujours en nous, mais la chair a toujours la même faiblesse. Jamais une conversion fortifiera votre chair, pas du tout. C'est un abandon au Seigneur, à un plus fort que vous. Votre chair, si vous comptez sur la chair, eh bien, vous coulez et vous allez de dépression en dépression. Et vous arrivez à vous dire, si seulement je ne m'étais pas converti, parce qu'avant je vivais. Tandis que maintenant, depuis que je suis chrétien, depuis que je me suis donné au Seigneur, eh bien, je n'arrive pas. Je suis malheureux. C'est tout à fait normal. Mais la foi vous fait saisir que Jésus non seulement est mort, mais qu'il est ressuscité, et qu'avec lui, dans sa résurrection, vous avez repris vie. L'incarnation du Seigneur, mort pour nos fautes, ressuscité pour notre justification. Voilà. La grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. La loi qui nous convainc de péché a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité, parce que c'est ça. La loi n'a pas apporté la grâce. La loi, c'est le contraire de la grâce. La loi te condamne. La grâce te pardonne. Mais pas un pardon coup d'éponge, mais un pardon qui repose sur une justice satisfaite. Et c'est cela qui apaise notre conscience. Je sais que je suis un pécheur. Je sais que je peux encore tomber. Mais je sais que j'ai un sauveur qui a tout payé. Alors je ne dis pas vers bonne affaire, je continue. Non, non. J'ai en horreur le péché. Et plus vous vivez dans la compagnie de Jésus, plus vous vivez en Jésus, plus Jésus vit en vous. Eh bien, que cette grâce nous soit donnée. Et c'est cela qui s'est passé à la Pentecôte. Jésus a accompli le sacrifice. Il est ressuscité. On l'a vu ressusciter. On l'a vu monter au ciel. Et le jour de Pentecôte, la promesse s'est accomplie. Alors, quelques mots sur ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Je ne vais pas vous dire des hérésies. Est-ce que vous croyez que ceux qui étaient réunis avaient des écouteurs? Et comment vous appelez ça?
Des
Walkman. Comment voulez-vous entendre la voix de Dieu avec un Walkman? Que vous répétiez vos leçons avec ça, c'est une autre affaire, hein? Il y a des moments pour ça. Mais quand on voit ces gens qui ne peuvent plus être nulle part sans cela et écouter du rock ou je ne sais quoi, vous ne pouvez plus réaliser Pentecôte. Ce n'est pas vrai, c'est de la foutaise. Vous pouvez être évangélique et tout ce que vous voulez. Mais si vous ne savez pas vous discipliner et vous séparer de certaines de ces inventions qui sont magnifiques, Mais il faut savoir les employer. Il faut savoir les utiliser. Les apôtres étaient là dans le silence. Ils n'étaient pas un festival. Ils n'étaient pas devant le mot d'ordre. Ils étaient dans le silence, dans le recueillement. Et tout à coup, ils ont entendu un son qui venait d'ici. Maintenant, on va introduire une musique qui vous cache les oreilles dans les églises. N'est-ce pas? Alors, vous ne pouvez pas entendre le son qui vient du ciel. C'est des musiciens. On regarde tout de suite les musiciens. Et toute la gloire va d'abord à ces groupes. Je n'ai rien contre des groupes. Loin de là, ma pensée. Mais si vous voulez un culte qui soit un culte, il faut payer le prix. Je sais très bien que des paroles comme celles que je dis ne sont pas reçues dans beaucoup de milieux. Parce que on veut introduire le monde dans l'Église. Tout ce qui se voit dans le monde, parce qu'on ne regarde pas ce qui se voit devant Dieu. On n'est pas devant Dieu. On est devant le monde, on est ébloui par le monde. Mais qu'est-ce que le monde vous apporte? Qu'en voit-il de la chair? Qu'en voit-il des yeux? Orgueil de la vie. Et quand cela entre dans nos églises, eh bien c'est la désunion. C'est les disputes à n'en plus finir sur des questions tout à fait secondaires. Et le Seigneur dit, j'ai cherché un homme et il n'y a personne qui ferme la brèche. Il y a une brèche qui est faite. Et le monde entre par la brèche. Et vous savez, il n'y a pas besoin qu'elle soit grande, la brèche. Si vous avez connu un peu la Hollande et les inondations en Hollande, il y a une petite brèche qui se fait dans la digue. Hein. Et puis l'eau passe, passe, et tout à coup c'est l'inondation. Une brèche, veillez sur les brèches. Il faut colmater la brèche. Sans ça, c'est une catastrophe, tôt ou tard. Et le monde va vous envahir. Et quand je dis cela, je pense à nos enfants. Quel exemple ont-ils dans nos milieux? Eh bien, que le Seigneur de grâce nous montre, nous fasse vivre ce jour de Pentecôte. Vous allez le repasser dans vos cœurs. Ils étaient dans le silence. Ils étaient là, assis. Tout à coup, il y a un son qui vient du ciel. Mais quand on est dans le bruit, par exemple la radio, par exemple aussi la télévision, tout ce bruit-là, on ne peut plus voir le Seigneur. On dirait oui, mais on a les émissions religieuses, oui, oui, oui. Mais vous n'avez pas seulement les télévisions pour les émissions religieuses. Nous sommes une bande de menteurs. Peut-être que nous pouvons contrôler ça. Mais quand on vient me dire, vous savez, moi je n'ai ça que pour les émissions religieuses. J'ai un enfant de Dieu. Parce que ce n'est pas vrai que Dieu soit vrai et tout homme menteur. Je n'ai rien contre la télévision. Vous pouvez la voir, c'est pas cela, on ne vous met pas sous la loi. Mais je vous dis, contrôlez. Et ce qui n'édifie pas, ce qui ne peut pas donner un bon exemple à vos enfants. Pourquoi est-ce que même des athées l'ont enlevé? Parce qu'ils ne voulaient pas pervertir leur gosse. Non, parce qu'ils n'étaient pas pourtant des croyants, mais ils voyaient que vraiment, ça pouvait être un mal s'ils ne sont pas capables de discipliner, de contrôler leurs enfants. Alors Pentecôte, c'est entendre un son qui vient du ciel. Et puis la maison était remplie de quoi? La première chose qui trône souvent comme un autel dans les maisons aujourd'hui, eh bien oui, la télévision est devenue un hôtel. Et qu'est-ce qui rassemble la famille? Ou qui la disperse aussi, parce que tout à coup, les uns ne veulent plus le même programme, alors il faut deux postes, il en faut trois, il en faut quatre. Et j'ai vu, même chez un prédicateur, il y avait des postes dans toutes les chambres. Parce que chaque enfant, les garçons, les filles, ils veulent d'autres programmes. Parce que ça ne les intéresse pas. Alors, toute la famille finit par être divisée, alors que le Seigneur nous rassemble. Vous direz que je suis vieux, mais je me souviens encore de ces jours où on était rassemblés autour de la table pour lire la parole ensemble. Et on écoutait. Peut-être que c'était pas toujours bien cette éducation qu'on nous donnait, mais pourtant, il restait quelque chose. Même si on s'est éloigné pendant un temps.
La parole avait été vue, la parole avait été entendue.
Et alors, il y a une autre chose qui se passe. Donc, ils sont en communication avec le ciel et tout à coup, le son vient du ciel. Le vent remplit toute la maison. Mais il y a trop de choses dans nos maisons. Quel coup de balai faudrait-il pour que ce soit le Saint-Esprit qui remplisse toute la maison? Le Saint-Esprit a rempli toute la maison. Oh, on le veut, le Saint-Esprit. Mais on le veut pourquoi? Pour pouvoir faire des choses. Pour pouvoir accomplir des grandes choses. Non, laissez-vous emporter par le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit emporter les choses qui sont de trop, pour qu'il y ait de la place dans la maison et plus de place pour le Saint-Esprit. Et puis, les langues qui tombent sur chacun d'eux. Et qu'est-ce que c'est que ce don des langues? Eh bien, ici, c'est recevoir la capacité de pouvoir devenir un témoin et d'exprimer dans une langue qui sera compréhensible à tous, et vous avez vu toutes ces nationalités, les choses magnifiques de Dieu. S'il y avait sur nos lèvres les choses magnifiques de Dieu, eh bien, vous sauriez ce que c'est que le parler en langue, le vrai parler en langue. C'est recevoir la capacité de pouvoir parler du Seigneur d'une façon qui touche les âmes. C'est cela, en premier lieu. Il y a un parler en langue dans le chapitre 12 des Corinthiens, dans le chapitre 14, que nous n'ignorons pas, mais à la Pentecôte, les croyants ont reçu la capacité de pouvoir devenir témoins dans le monde entier. Tous ces gens qui étaient réunis, qu'est-ce qu'ils les entendaient dire? Non pas du charabia qu'il fallait traduire, c'était directement. Ils étaient en direct avec Dieu. Oui, c'est vrai. Ils étaient en direct avec Dieu. Ils entendaient ces gens qui n'avaient pas de titre, qui n'avaient pas de culture, qui étaient des Galiléens, qui avaient peut-être encore leur accent, eh bien, ils les entendaient parler des choses magnifiques de Dieu. Bien, mes bien-aimés, le Saint-Esprit, c'est la réunion que nous aurons ce soir, est descendu. Et qu'est-ce que c'était que le Saint-Esprit qui descendait? C'était Christ qui revenait en esprit pour faire son habitation dans l'homme. Mais vous voyez, il avait fallu d'abord que la maison soit vide. Parce qu'ils étaient pleins d'eux-mêmes avant. Et tant qu'ils ont été pleins d'eux-mêmes, ils ont trahi le Seigneur, ils l'ont abandonné, ils l'ont renié. Mais une fois que le vide a été fait, l'Esprit a pu les remplir. Et ça, c'est un fait historique. Le Saint-Esprit est venu. La prophétie d'Osée de Joël s'est partiellement accompli et désormais ce n'était plus eux qui parlaient, mais c'était le Saint-Esprit qui les remplissait et qui les animait. Et bien, que le Seigneur vous fasse méditer sur ce grand événement. La loi ne nous avait fait connaître que le péché, la faiblesse de la chair, mais aussi le besoin d'un sauveur. Et si vous voulez amener les âmes au besoin d'un sauveur, eh bien, il faut peut-être un peu retourner à la loi. Pas nous remettre sous la loi, mais montrer quelle est la pensée de Dieu au sujet des mœurs dans lesquelles nous voyons le monde descendre de plus en plus. Et maintenant que nous avons le Christ, que nous connaissons le Christ, présenter seulement le Christ comme modèle, c'est laisser les âmes avec un Christ extérieur. Alors ils désirent l'imiter, c'est vrai, ils prennent une décision, mais ils ne peuvent pas imiter le Christ. Alors, le Christ, dans sa grâce, par sa mort, liquide la question du péché, par sa mort, nous délivre du joug de la loi, parce que Jésus a satisfait à toutes les exigences de la loi, et puis par sa mort, il nous délivre de la crainte du jugement. Il ne peut plus y avoir de jugement pour nous, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Par sa résurrection, la vie que nous avons, ce n'est pas la vie naturelle améliorée, c'est la vie éternelle. Comprenez-vous ? Ne pensez jamais que depuis votre conversion, vous devez vous attendre à ce que votre vie naturelle s'améliore. Si vous remarquez aujourd'hui que vous êtes plus en arrière que le jour de votre conversion, quant à vous-même, c'est bon signe. Parce que ça veut dire que vous vous connaissez un peu mieux. Et que le jour de votre conversion, vous n'aviez pas encore découvert tous les abîmes de votre nature. Mais maintenant que vous vivez dans la lumière, eh bien, il y a des choses que le Seigneur vous manifeste. Alors, loin de vous décourager, vous vous dites, comme c'est vrai, Seigneur, que j'avais besoin d'un sauveur. Christ est pour vous maintenant. Christ n'est pas contre vous, comme nous l'avons souligné hier soir. Christ est pour vous. Mais si lui est mort, ça veut dire aussi que tous donc sont morts. Si lui est mort, tous sont morts. Ceux qui se réclament du Christ, eh bien, le monde doit savoir que nous sommes morts. 2 Corinthiens 5, verset 14. Il est dit, l'amour du Christ nous étreint parce que nous avons jugé ceci. C'est quelque chose qui est jugé, c'est quelque chose qui est définitif. Que si un est mort pour tous, tous donc sont morts. Je ne peux pas accepter que Jésus soit mort puis que moi, je ne sois pas mort. Donc, la crucifixion était dans mon programme. Et la mort quotidienne, elle est dans le programme du chrétien. Le Seigneur n'a pas dit que ce serait facile de le suivre. Il a parlé du renoncement. Mais alors, il nous dit qu'il habite en nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et c'est si vrai que Paul pouvait dire, maintenant j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, parce qu'on est encore dans la chair, mais je ne le vis pas selon la chair, je le vis dans la foi. La foi à qui ? La foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. Ce verset capital de la vie chrétienne. Ce n'est plus moi. Alors, si vous faites des œuvres à la gloire de Dieu, si ça va bien dans votre vie, si vous avez un bon témoignage, vous ne vous glorifiez plus. Vous dites, c'est le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur. Alors, vous êtes dans l'action de grâce. Et la Sainte Cène, c'est la suprême action de grâce. On arrive à ce moment où on s'abîme devant Dieu en disant, tu m'as tout donné par ta mort et par ta résurrection, et je me souviens de toi. Faites ceci en mémoire de moi. Et on comprend pourquoi dans l'Église primitive on faisait cela tous les jours. Eh bien, que la grâce de Dieu nous soit donnée, et que en participant à ce repas qui doit avoir un sens pour nous, nous ne fassions pas simplement de manger un morceau de pain, un geste comme ça, mais que nous prenions le pain et puis que nous buvions à la coupe, qui n'est pas simplement prendre une gorgée de vin qui nous rappelle son sang, mais être en communion réelle et dire aussi vrai que je mange, Seigneur, c'est vrai que tu es en moi. Aussi vrai que je vois, c'est vrai que je crois en toi. J'ai dit quelquefois, manger, oui, c'est aimer. Et puis boire, c'est croire. Je crois ce que tu me dis et je suis en communion avec toi. Alors, cette table qui est là devant nous, ce n'est pas notre table, c'est la table du Seigneur, expression de cette table à laquelle on place tous les rachetés du Seigneur dans le ciel. C'est la table où chacun a sa place. Quand je dis chacun, de ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Mais si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ, si Jésus-Christ n'est pas une personne pour vous qui vous est intérieure, eh bien, en prenant la scène comme ça, vous mangez et vous buvez un jugement contre vous-même. Quand on nous dit qu'il ne se passe rien à la Sainte Cène, c'est archi faux. Il se passe quelque chose parce qu'il est dit que si plusieurs sont malades parmi les Corinthiens, plusieurs sont même morts, c'est qu'ils ne se sont pas jugés eux-mêmes avant de prendre la scène du Seigneur. Alors, s'il y a un jugement pour ceux qui prennent la scène indignement, il y a aussi une bénédiction pour ceux qui la prennent dans la communion du Seigneur. Alors, ce n'est pas nous qui distribuons le pain et le vin, vous viendrez vous-même après ce moment de culte, d'adoration que nous commençons maintenant dans la liberté de l'esprit. Nous viendrons, nous nous approcherons de la table, ceux qui le désirent. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, conduis maintenant notre culte de louange et d'action de grâce. Donne-nous la liberté de ton esprit et que ce matin nous sachions ce que nous faisons et que nous puissions réaliser en ce jour de Pentecôte une effusion de ton esprit dans toutes nos vies. Pour ta seule gloire. Amen.